France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
On se projette dans la médecine de demain avec une technologie en cours d'éclosion, les jumeaux numériques. Que peuvent ces avatars virtuels pour la recherche fondamentale et pour la prise en charge clinique ? Imaginez tester un traitement sur votre double informatique avant de l'appliquer sur vous-même. C'est l'un des objectifs des jumeaux numériques. Le concept nous vient de l'industrie aéronautique, où il permet de simuler un vol en temps réel, par exemple. Transposé en médecine, l'idée est de faire pareil avec un patient et l'ensemble de ses données biologiques, avec un poumon artificiel ou un cœur virtuel. Ces répliques permettraient de mieux prédire la santé de chacun. L'espoir est d'en finir avec les tests in vitro et in vivo, souvent longs et coûteux, pour faire place aux expériences in silico directement menées sur ordinateur. Jumeau numérique, le patient modèle. Anna Niarakis, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous d'y avoir répondu positivement. Vous êtes professeur à l'Université Toulouse et chef d'équipe au Centre de Biologie Intégrative et au Laboratoire Moléculaire et Cellulaire du Développement. Jean-Baptiste Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Laboratoire Décision et Processus Bayésien Épimétée et chercheur à l'Institut Pasteur, à l'INRIA et au CNRS. Vous êtes également cofondateur de la start-up Avatar Medical. Un grand merci à vous deux d'être là en direct dans nos studios à France Culture. Et un grand merci à vous d'être là à l'écoute, en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez évidemment nous suivre sur l'appli Radio France, mais aussi sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, quelles sont les perspectives ouvertes par ces technologies? Quels sont les usages cliniques que l'on observe dès aujourd'hui? Et quels sont ceux à venir? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour et une première tentative de définition. Nous sommes en 2020.
Imaginez que vous deviez subir un acte chirurgical risqué et que la procédure puisse d'abord être testée sur votre double virtuel pour minimiser les risques. Ce jumeau ne serait pas fait de chair et d'os, mais de bits et d'octets. Il reproduirait par exemple le fonctionnement de votre cœur et aurait votre code génétique. Nous avons rencontré les chercheurs à l'origine de cet avatar numérique. L'humain virtuel, d'après ses concepteurs, pourrait bouleverser la médecine et révolutionner les soins. Au cœur du projet, le centre d'excellence Combiomed, financé par l'Union européenne et dirigé par le professeur Peter Coveney au sein de l'University College London.
Il ne fait aucun doute que ce double virtuel sauvera des vies. Cela s'explique par le fait qu'il est capable de prédire un résultat avant sa survenue.
Nous construisons l'humain virtuel élément par élément. C'est révolutionnaire parce que cela permet de visualiser un système. On voit le patient dans sa globalité.
Le projet combine des données spécifiques sur les organes tirées par exemple de radiographies, de scanners et d'examens IRM et d'autres informations, notamment génomiques, pour créer un avatar personnalisé.
Voilà un extrait de reportage d'Euronews en 2020. Jean-Baptiste Masson, est-ce que nous sommes vraiment en train de construire un humain virtuel élément par élément, comme on l'entendait dans cette archive ?
C'est une vision probablement un peu enthousiaste, soit dit en passant, c'est un laboratoire très connu et ce genre de résultats pour la chirurgie, c'est probablement les choses qui vont avoir l'effet le plus rapidement possible. Parce qu'en vérité, il n'y a pas une infinité de choses à mesurer dans un premier temps. Donc l'idée de faire une sorte de réplique, quelque chose qui approximerait le corps avec des mesures médicales, c'est ce qu'il disait, le scanner, l'IRM pour pouvoir en tirer des éléments. Les données génomiques, sur ce coup-ci, je me demande ce qu'ils en faisaient, mais ils devaient probablement avoir un lien entre certaines maladies et ces données génomiques pour pouvoir dire, bah, très bien, on va à l'avance au moins regarder la voie d'accès chirurgicale, comment on va rentrer les instruments, par exemple, pour correspondre en fait au patient. Donc sur le coup, ça peut être bien. Le mot en général, révolutionner en médecine, ça arrive rarement, c'est lent. Compliqué, mais sur le coup, c'est très prometteur.
Ah, révolutionnaire, il est sûr que les journalistes aiment bien ce terme-là. Anna Niarakis, est-ce que, quand on parle voilà, de jumeaux numériques, est-ce qu'on parle, on parle pas forcément d'un jumeau complet d'un seul patient? C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir des approches modulaires. On ne va pas arriver à modéliser tout le corps d'un coup, mais je pense que c'est très important de commencer par des cellules virtuelles, par exemple, ou des tissus virtuels, les organes virtuels, et essayer de mettre tout ça ensemble. Ça, c'est aussi un défi important, et on peut dire qu'on n'est pas exactement là encore. Hein. On a pas mal des défis technologiques à surmonter pour y arriver.
Et on reviendra sur ces défis technologiques, mais peut-être qu'on peut aussi commencer par définir, parce que j'ai l'impression que le concept de jumeaux numériques, c'est quand même un concept flou. Comment vous le définissez, vous ?
C'est vrai, il faut aussi dire que j'ai plusieurs casquettes, donc je dirige un groupe de travail international sur le jumeau numérique pour le système humain immunitaire. Et je peux vous dire qu'après 4 ans de discussion, on n'est pas d'accord sur une définition pour un jumeau numérique médical, parce que nos connaissances sont assez fragmentées. On ne sait pas exactement comment notre corps fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à modéliser. On n'a pas de blueprint. Dans la manufacture ou dans l'industrie, c'est un peu différent parce que là, on sait exactement les systèmes qu'on veut modéliser. Donc, on peut faire des avatars in silico beaucoup plus facilement. Donc, je pense que pour être un peu moins strict sur les aspects de jumeaux numériques médicaux, l'effet qu'on demande d'avoir une calibration en temps réel, ça, c'est pas facile et c'est pas aussi réaliste pour plusieurs maladies. Je sais pas si vous êtes d'accord.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, sur le coup, quand vous avez proposé l'émission, je me suis retrouvé un peu embarrassé en me disant, la vérité, je peux avoir une définition pour certains systèmes, mais elle généralisait pas vraiment sa définition. Et j'ai recommencé à rechercher, en fait, en disant, donc, sur le coup, c'est exactement ce que vous dites dans votre chapeau d'introduction. C'était la NASA. Heureusement, on date le début du concept à la NASA dans les années 60, où, en fait, j'aurais tendance à dire que c'était un jumeau physico-numérique. Parce qu'à la vérité, ils construisaient
oui.
Exactement ça, ils avaient des maquettes. Et puis quand c'est vraiment Apollo 13, c'est-à-dire l'accident d'Apollo 13, en ce qui devait en temps réel réussir à résoudre tous les problèmes. Et c'était un mélange de simulation informatique de fonctionnement. Et en même temps, ils étaient en train de bricoler. On a tous vu le film. Voilà, c'était genre avec toute une armée d'ingénieurs pour sauver les astronautes qui étaient en perdition. Sur le coup, donc à force de chercher, j'ai fini par trouver. Donc je relis mes petites notes. Au moins le terme jumeau numérique, c'est Dr Michael Greaves de l'université de Michigan. Et c'était beaucoup plus dans le contexte exactement que vous venez de dire de la manufacture. C'était l'idée de dire que le concept d'avoir 3 éléments, la partie physique, la partie numérique et des données qui vont de l'un vers l'autre. Et de se dire que c'était bien plus pensé dans le cycle client et choses comme ça, c'est-à-dire d'avoir un retour entre les deux. Moi, je mettrais le seul élément dans le jumeau numérique qui me paraît important, c'est de dire s'il n'y a pas d'interaction directe avec l'extérieur ou une rentrée d'informations, ça s'appelle une simulation. C'est ce qu'on fait tout le temps en science, c'est ce qu'on fait tout le temps pour plein de choses, c'est-à-dire on met plein d'éléments numérique, on approxime la réalité par des équations ou par des différents éléments dans une simulation, on fait quelque chose, on essaie d'étudier ce que ça fait. Ça s'est fait depuis le moment qu'il y a des ordinateurs, on fait ça. On va dire que c'est un jumeau à partir du moment où soit il y a une décision à prendre par la personne qui interagit avec la simulation, ou il y a des données qui rentrent plus ou moins en temps réel d'ailleurs, à l'intérieur, et que voilà, exactement, et quelque chose qui en sort, qui permet de prendre une décision. Dans ce cas-là, c'est un jumeau, c'est-à-dire que ça représente quelque chose, mais on peut agir dessus.
Donc, en fait, pour bien comprendre, c'est un peu la version la plus aboutie des fameux modèles qu'on utilise partout en science, Anna Niarakis. Mais, oui. Mais finalement, quelle différence entre un modèle computationnel classique et des jumeaux numériques ?
C'est aussi c'est un grand débat dans le domaine, mais je pense que la différence entre un modèle classique, un traditionnel informatique et un jumeau numérique, c'est aussi le passage à l'échelle. Ça veut dire qu'on est capable de modéliser au moins 2-3 couches biologiques différentes.
Moléculaires, anatomiques, génétiques.
L'idée, c'est d'avoir une façon d'intégrer toutes les données qu'on peut avoir accès, les données pathologiques, physiopathologiques, les données cliniques, mais aussi les données omiques.
C'est ça, puis en jumeau numérique, on a un contexte et une personnalisation possible également.
Oui, parce que si on arrive à avoir un avatar pour modéliser une maladie sur le corps entier, on peut aussi imaginer qu'on peut contextualiser, on peut personnaliser ces modèles avec le make-up génétique d'un patient.
Par exemple, un exemple de contextualisation, c'est adapter un modèle d'inflammation lié au cancer au cas d'une inflammation liée à la polyarthrite, par exemple. Ou si on veut personnaliser, autre exemple, c'est adapter son profil génétique ou le profil biologique d'un patient.
Exactement. Par exemple, l'inflammation, c'est un symptôme omniprésent sur plusieurs maladies. On peut imaginer de construire un jumeau numérique de l'inflammation facilement ou pas, adaptable pour plusieurs pathologies inflammatoires. De l'autre côté, pour parler pour la personnalisation, il faut vraiment avoir des données qui proviennent d'un seul patient pour avoir un modèle tailor-made pour modéliser vraiment la réaction et la réponse au traitement pour ces patients-là.
Oui, voilà. Alors que là, vous avez parlé d'Apollo 13, on a vu que cette technologie jumelle, ça pouvait résoudre des problèmes dans des situations extrêmes. Jean-Baptiste Masson, ça veut dire aussi que les jumeaux numériques, il y a cette ambition, cet objectif de médecine prédictive, c'est ça ?
Oui, alors déjà, pour reprendre ce que vous venez de dire, une des difficultés, c'est la... Beaucoup de ce qu'on étudie et la connaissance qui émerge en médecine, c'est de la connaissance sur des populations. Et on cherche à passer de la population à l'individu. Donc, ça fait déjà longtemps que les pharmaceutiques sont conscients de ça. C'est-à-dire que les médicaments sont plus pensés comme étant un médicament pour tout le monde, mais qu'il y a des groupes, des sous-groupes. Ne serait-ce que même un truc aussi basique qui n'a pas été pris en compte pendant longtemps, qui était les quelques différences biologiques hommes-femmes, qui ont un vrai impact pour les médicaments. Les différences aussi. Donc, d'un coup, c'était les premières idées-là. C'est qu'en fait, non seulement il y a des groupes, mais des sous-groupes et des sous-groupes. Plus notre connaissance augmente, plus on identifie des groupes, plus on essaie de se rapprocher de l'individu. Mais il y a un vrai gap, il y a un vrai trou dans la complexité, quelque chose de très dur à passer de grandes connaissances sur des populations à quelque chose qu'on peut individualiser. Donc il y a aussi, d'un point de vue statistique, d'un point de vue de méthode mathématique, c'est extrêmement compliqué de dire ça. Donc un des défis, c'est aussi ça, c'est de se dire ça. Après, effectivement, un des buts qui est exactement dit là-dedans, c'est la prédiction. C'est-à-dire, en général, on va accumuler tout un ensemble de connaissances sur une situation, le but étant de dire... En accumulant toutes ces connaissances qui ne sont pas cognitivement si simplement interprétables, on va prédire quelque chose sur le patient, ou sur la patiente, et pouvoir prendre une décision à partir de ça. Et un des vrais défis d'utilité, c'est à quel moment on arrive à un point où on fait mieux que ce que fait naturellement un médecin. Parce que l'enjeu, c'est ça.
Je vois sourire à Mme Yarakis.
Oui, parce que je pense que l'idée aussi de développer des jumeaux numériques, c'est pour aider à l'optimisation de traitements. Parce qu'aujourd'hui, pour plusieurs maladies, le cancer, le maladie auto-immune, le diagnostic c'est très difficile et on a des traitements qui sont un peu génériques. Et après, on peut passer 6 mois avec un traitement qui n'est pas du tout optimisé pour le patient, perd du temps, perd d'argent. Donc je pense que c'est là où on voit une vraie application et le plus-value. Après, c'est vrai que c'est les cliniciens qui sont devant le patient, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas le jumeau numérique. Et il faut être sûr que les modèles sont assez crédibles, robustes et fiables pour arriver à aider les cliniciens pour la décision.
Et on verra dans quelques instants justement quelles sont les applications cliniques qu'on observe, mais surtout les applications en termes de recherche fondamentale. On va y arriver dans quelques instants. Mais d'abord, Jean-Baptiste Masson, on a vu l'année 2011-2015, on voit un changement fondamental dans la progression des jumeaux numériques. On voit que c'est un domaine de recherche assez récent. Enfin, en tout cas, on le voit devenir de plus en plus intense. À quoi ces progrès sont-ils?
Comme on aura tenu, comment s'appelle votre émission, pendant juste à ce temps-là sans prononcer le mot intelligence artificielle, et ce sera le mot qui va arriver. Donc on aura déjà fait bien. D'un côté, la puissance des ordinateurs, c'est-à-dire des ordinateurs de plus en plus puissants et l'émergence des cartes graphiques comme une façon de faire du calcul rapide, donc la récupération de technologies à l'origine prévues pour faire des jeux vidéo ou du cinéma. D'un coup, réutiliser... il n'y a qu'une entreprise qui est ultra dominante dans ça, donc c'est Nvidia, hein, donc l'entreprise qui fournit à tout le monde ces technologies-là, et d'un coup la faculté de traiter beaucoup plus vite les données, de stocker beaucoup plus de données, d'en faire émerger quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui était compliqué avant ou qui existait de la modélisation, comme moi je suis surtout un physicien, c'était ce que j'aime bien, c'est-à-dire le fait de prendre la réalité, de la réduire et de la simplifier. D'un coup, il y avait toutes ces réalités qui étaient soit trop compliquées, soit qui étaient difficiles à mettre en équation ou à simplifier. Les données elles-mêmes pouvaient d'un coup liées à des résultats ou être analysées. Et donc ce mélange entre les deux, plus l'émergence d'une connectivité beaucoup plus grande, c'est-à-dire la perspective de se dire des données qui sont à plein d'endroits différents peuvent être ramenées, peuvent être utilisées, peuvent être traitées localement, d'un coup on se dit très bien, donc on reprend cette espèce de rêve de plus simuler, plus prédire de tous les côtés, sans pour autant aller trop loin pour en discuter, et de se dire, voilà, c'est ça qui d'un coup fait tout changer, et ça correspond au même moment où l'intelligence artificielle commence vraiment à émerger comme quelque chose qui va avoir une importance.
Voilà, ça plus les progrès de la biologie computationnelle et on obtient les jumeaux numériques. Alors concrètement, dans quel domaine cette technologie est-elle déjà utilisée? Comment fonctionne-t-elle? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Et en direct sur France Culture, avec Jean-Baptiste Masson et Anna Niarakis, nous parlons des jumeaux numériques. On vient de revenir sur l'origine du concept. Les premiers à avoir exploré ces jumeaux numériques, ce sont les constructeurs automobiles, l'industrie aérospatiale et la défense. Le développement de cette technologie dans le domaine de la recherche médicale a été rendu possible par les évolutions récentes de l'Internet des objets, de l'algorithmie et grâce au progrès dans le traitement de données massives, le big data. On a dit, c'est une définition encore un peu floue, on n'a pas de consensus. Est-ce que, pour prendre un exemple très concret, est-ce que la pompe à insuline, Anna Niarakis, est-ce que un pancréas artificiel, c'est un bon exemple de jumeau numérique?
Je pense que c'est vraiment un success story, mais c'est aussi parce que c'est la nature de la maladie, de la pathologie qui est telle, qui nous permet de voir, de capter en temps réel. Donc, pompe à l'insuline, c'est un pancréas artificiel, c'est un simulateur du pancréas qui est porté par le patient sur le corps, donc avec une capacité de mesurer le taux de glycémie en temps réel. Et pas seulement ça, mais aujourd'hui, les pompes à l'insuline de dernière génération sont aussi capables de faire de récalibration, de faire des calculs pour la concentration, la quantité de l'insuline que le patient faut réinjecter sur le corps, sans que le patient fasse des calculs ou même des injections. Oui, tout ça, c'est automatique et ça vraiment a changé la qualité de vie de diabétiques.
Voilà, ça a eu un impact énorme sur la vie des patients atteints de diabète. Jean-Baptiste Masson.
Oui, c'est un très bon exemple parce que c'est un des cas où ça marche parce qu'en fait, en termes mathématiques ou quantitatifs, c'est un problème en petite dimension. C'était quelque chose qu'on a étudié pendant extrêmement longtemps. Donc on avait un vrai modèle, une vraie compréhension de cette dimension-là du pancréas, de la manière dont ça agissait. Donc sur le coup, là, effectivement, le jumeau numérique est possible. On a un modèle et plus les solutions modernes apparaîtront, plus elles auront probablement une composante de voir comment le patient réagit, réanalyse ce qui est en train de se passer pour voir s'il y a des modifications. En quelque sorte, comprennent la situation, s'il va y avoir des gros repas ou des choses comme ça pour aller dessus. Donc d'un coup, ça progresse à ce niveau-là. Mais c'était un problème particulier parce que justement, à la différence de ce dont on a parlé au début, on est en train de dire, mais est-ce qu'on peut simuler tout le corps? Est-ce qu'on peut ajouter trop de dimensions, trop de variables qu'on ne peut pas mesurer, trop de choses compliquées? Là, c'est un problème qui était petit en dimension et extrêmement bien défini.
Est-ce que l'exemple du jumeau numérique du cœur, est-ce que c'est un bon exemple, ça aussi?
Alors, c'est et un bon exemple et un mauvais exemple pour plein de choses.
c'est ambigu.
Voilà, exactement. C'est un bon exemple parce que c'est vraiment un des premiers sujets qui a été extrêmement recherche, qui a intéressé tant des laboratoires à l'INRIA, que des laboratoires privés, que des grandes entreprises. C'est un vrai succès parce que la nature et la complexité des simulations qu'il faut faire est très significative. Donc il y a eu énormément de développement mathématique pour simuler proprement différentes échelles, les signaux électriques, les signaux mécaniques. Il y a vraiment des grands spécialistes de ça à l'INRIA, des laboratoires qui sont vraiment dédiés à ça. C'est un échec, pas un vrai échec, ça c'est pour la plaisanterie, pour la recherche ça avance beaucoup. Mais la question c'est de se dire, quand on montre ce genre de du jumeau à un cardiologue, la réaction est en général, ouais et alors ? Ça va pas me prédire grand chose pour mon patient en vrai. J'exagère un peu. Ça va pas me permettre de faire tout un certain nombre de choses comme ça, et ça empêchera pas que, par exemple, un praticien qui a quelqu'un qui va avoir des anomalies du rythme et qui donc doit aller brûler quelques cellules à l'extérieur pour celles qui grosso modo battent pas en rythme dessus, va quand même aller remesurer localement parce que c'est pas parce que la simulation lui a prédit quelque chose qu'il va y avoir. Et d'un coup, il y a une vraie question de proportion entre sortir des simulations d'une incroyable complexité, dure à faire et technologiquement contraignante, et le gain qu'il va y avoir à l'hôpital. Ça n'empêche pas de faire de la recherche, là, sur le coup, on s'en fiche que ça... Voilà. Mais sur le coup, l'arrivée à l'hôpital de ça, c'est pas du tout évident, parce que quel est le bénéfice pour le patient et quel est le bénéfice pour le cardiologue?
Je pense, juste un petit commentaire, je pense qu'il y a aussi l'aspect de traitement. Le traitement va agir sur le niveau moléculaire. L'écart virtuel, c'est plutôt un modèle biophysique. Donc il faut réconcilier les échelles. Il faut passer de la biochimie jusqu'à biophysique en trouvant des liens naturels. Biologique.
Il y a des premiers modèles qui essaient de faire ça, mais c'est compliqué d'avoir une... C'est magnifique comme expérience. En vrai, je suis extrêmement admiratif des gens qui ont développé à la fois les codes et à la fois les choses comme ça, parce que c'est des simulations extrêmement compliquées, mais c'est un des vrais beaux paradoxes d'avoir développé quelque chose d'extraordinairement complexe et qui va se développer, et de pour l'instant pas réussir à converger sur une utilité médicale suffisante pour justifier son insertion soit chez le patient, soit dans l'hôpital ou quelque chose comme ça. Donc c'est une vraie problématique intéressante.
Vous, en tout cas, Jean-Baptiste Masson, vous êtes physicien, théoricien et vous travaillez sur une solution de planification chirurgicale en réalité virtuelle. Bref, un jumeau numérique qui peut être très utile pour la planification chirurgicale.
Voilà, et c'est justement un problème qui est en fait relativement petit et beaucoup, très simplifié. Donc, Une des dimensions qu'on a eues, et c'est les dimensions de la thèse d'un des thésards, Robin Kremes, était de se dire comment on fait pour faire des simulations. Sur le coup, dans le laboratoire, c'est un des sujets les plus appliqués qu'on a. Donc en fait, on l'a beaucoup pris dans l'idée, si on doit faire quelque chose qui potentiellement pourrait servir à quelque chose, il faut que ce soit simple, il faut que ça puisse tourner sur des ordinateurs. Bon, la blague, c'est de dire qu'il faut que ça tourne sur les Minitel de l'hôpital. C'est pas exactement les ordinateurs. Mais c'est une blague. Après, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous force à faire du calcul, à être optimal dans les algorithmes. Pour faire ça, pour déjà, dans ce cas précis, utiliser les chemins possible pour faire la chirurgie. L'autre aspect, c'était l'aspect de se dire, on est habitué à interagir dans un monde en trois dimensions. Surtout, les chirurgiennes sont pas nécessairement entraînées à voir des données comme un radiologue ou une radiologue. Et donc, l'idée, c'était de retransformer en 3D les données, de faire un rendu pour qu'il y ait d'un côté la planification, mais à la fin, c'est le chirurgien ou la chirurgienne qui décide dans quel parcours et elle prend ses choix.
Bien, vous venez d'introduire notre reportage du jour. Comme nous l'avons vu, il est possible de modéliser différents organes en trois dimensions sous forme de jumeaux numériques. Pour notre reportage, nous sommes allés voir un avatar de poumon. Et c'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour, Natacha.
Alors, vous vous êtes rendu à l'Institut Pasteur, là où l'on modélise des organes en trois dimensions.
Oui, dans un logiciel d'imagerie classique, celui que les médecins ont à l'hôpital depuis maintenant plusieurs décennies, on peut visualiser les organes via une succession de coupes en deux dimensions. Et avec beaucoup d'entraînement, les médecins parviennent à reconstruire mentalement l'image en trois dimensions et avoir accès aux informations importantes. Le logiciel avec lequel travaille Robin Kremes, qui travaille avec vous, donc comme vous l'avez dit, Jean-Baptiste Masson, et qui est donc doctorant en imagerie médicale, permet d'obtenir des images 3D à partir des données d'un scanner ou d'une IRM. Le fait d'avoir accès directement à l'image en volume peut simplifier la vie des médecins et leur faire gagner du temps au moment de planifier une chirurgie par exemple. Mais le gros avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de naviguer dans l'image. On peut donc choisir de se concentrer sur une zone d'intérêt, en particulier de l'organe, et la regarder sous toutes ses coutures.
Si je vous montre ce qui a été fait ici, on va prendre l'image du patient, donc l'image CT-scan, et on va simuler la pénétration de la lumière à l'intérieur de l'image afin d'avoir une représentation des différents tissus constituant cette image.
D'accord, c'est ce qui donne cet effet de volume, parce que là, ce qu'on a sous les yeux, j'ai l'impression que c'est des poumons qui sont rouges et avec des branches blanches.
Exactement, donc sur mon image, j'ai voulu accentuer les pixels représentant la cage thoracique et l'arbre bronchique. Et ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est une segmentation que je suis venu superposer à mon image de poumon, de telle sorte à pouvoir aider le médecin à naviguer à l'intérieur de cet arbre bronchique. L'idée est effectivement de représenter différemment les pixels et d'avoir une vue tridimensionnelle directement de ce patient sous forme d'un jumeau numérique. Et surtout, de pouvoir interagir avec cette représentation 3D de telle sorte à pouvoir l'étudier sous tous les angles, ce que permet beaucoup plus difficilement un logiciel de visualisation médicale.
Parce que oui, le poumon qu'on a sous les yeux, il est dans un grand cube blanc, j'imagine.
Exactement.
Que ça, c'est pour donner un repère visuel pour se balader dedans.
Exactement. Et en fait, j'ai la possibilité d'interagir directement avec ce volume.
Et là, en cliquant dessus, vous faites tourner à 360,
exactement.
Vers le haut, vers le bas.
En cliquant dessus, je peux faire ça. Je peux zoomer dessus pour pouvoir essayer de le visualiser au mieux. Et je peux même rentrer à l'intérieur du poumon. Exactement. Et je peux même justement rentrer à l'intérieur du poumon pour aller regarder aux endroits où je devrais planifier ma chirurgie. Comment est-ce que je me rapproche des tissus potentiellement critiques de mon patient.
Dans le cadre d'une chirurgie du poumon, ça peut être quoi, par exemple, qu'on va voir exactement en rentrant dans le poumon ?
On peut typiquement s'intéresser à la proximité avec laquelle on va se rapprocher des parois de l'arbre bronchique pour éviter tout endommagement de cet arbre lors de l'opération. On peut aussi essayer de visualiser les différents chemins qu'il serait possible de prendre lors de l'opération. Tout ça dans le but, en fait, de planifier en amont la chirurgie.
Ces images tridimensionnelles donnent aussi accès à beaucoup plus de détails. Nous avons pu comparer avec Robin ce poumon en trois dimensions avec son pendant en deux dimensions, comme les médecins peuvent le voir à l'hôpital. La différence est frappante. Dans un cas, on peut délimiter avec précision l'arbre bronchique et voir les bronchioles,
tandis que sur les coupes en deux dimensions, la frontière est beaucoup plus floue, voire inexistante par endroits quand le contraste ne permet plus de distinguer l'intérieur du poumon de l'arbre bronchique. Pourtant, les deux images sont obtenues à partir des mêmes données, du même scan. Derrière, la différence se fait dans le traitement informatique avec l'utilisation de techniques développées au départ pour le jeu vidéo et qui permettent de simuler le transport de lumière à l'intérieur d'un volume.
Ça avait vraiment été l'innovation ici, c'est-à-dire ne pas prendre un volume comme un bloc de voxel. Donc là, un voxel est un pixel, mais en trois dimensions, puisque ce sont des petits cubes qui vont constituer une image, mais justement comme des indices de réfraction de la lumière pour pouvoir imaginer ce qui se passerait si, avec une certaine transparence, on projetait une source de lumière sur ces voxels. Comment est-ce qu'il serait reçu par l'œil humain. Ce qui peut vraiment intéresser un médecin radiologue, c'est qu'il peut avoir une idée très précise de ce qu'il souhaite voir. Un cas qu'on aime bien utiliser, ça va être le cas des cancers du sein, où il y a toute une problématique de délimitation de la tumeur afin de ne pas enlever trop de tissu sain, mais d'enlever l'intégralité des tissus cancéreux. Ça peut être très compliqué à visualiser sur une image médical en 2D, alors qu'avec ce type de méthode, la délimitation est beaucoup plus claire si la tumeur est bien visible, c'est-à-dire si elle signe différemment du tissu sain, ce qui est le cas pour l'imagerie du sein. Dans ce cas-là, on peut avoir une très bonne idée de la délimitation de la tumeur et de ce qu'il y a à faire derrière.
Quels seraient les principaux points d'amélioration qu'on pourrait imaginer à ces travaux ?
Alors, il y a toujours du travail. Il y a toujours plus de travail à faire dès qu'on creuse un sujet. Pour ce qui est des hôpitaux, la principale contrainte sera l'accès à des moyens de calcul. Pour pouvoir afficher ce genre de rendu, il nous faut des ordinateurs suffisamment puissants pour représenter en trois dimensions l'image du patient, ce qui n'est pas forcément quelque chose que tous les médecins ont à leur disposition. Donc, afin de faciliter ça, on souhaite proposer des serveurs justement de calcul qui peuvent être intégrés à l'hôpital directement pour éviter la fuite de données, mais pour permettre la visualisation sur une unité de calcul donnée du patient. Et ensuite, tout projet un peu de ma thèse est justement sur la visualisation, la superposition à ces visualisations de planification chirurgicale, donc de chemin défini par l'utilisateur, mais avec le moins d'interactions possible pour l'aider à planifier sa chirurgie et potentiellement l'adapter en fonction de ce qui peut l'intéresser.
Quand vous parlez du chemin, c'est concrètement le chemin du scalpel ou...
Oui, c'est ça. Ou en tout cas, là, je prends dans l'exemple du poumon, ça va être le chemin de la sonde où on va vouloir la déplacer dans l'intégralité de l'arbre. Ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif du médecin, ça va être d'aller à cet endroit-là, en partant bien sûr de la gorge du patient. Et ce qu'on veut, c'est proposer des méthodes de navigation automatique que l'on peut visualiser justement en réalité virtuelle pour amener la sonde de l'entrée de la gorge jusqu'à ce point précis de l'arbre bronchique. Tout ça en prenant en compte les contraintes de torsion du fil, torsion de la sonde et de distance à la paroi afin de minimiser les risques lors de l'opération. Et ça, c'est un travail qui avait été mené ici, mais bien sûr pas encore accessible au corps médical, parce que c'est la recherche.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo, sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Anna Agnarakis, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Je pense que c'est magnifique d'avoir ces types de sujets traités dans le laboratoire académique, mais je pense que c'est difficile d'avancer assez rapidement sans avoir de collaboration privée académique, parce que très souvent nous on a des contraintes et l'application à large échelle, soit on ne sait pas comment le faire, soit on n'est pas formé, soit on n'a pas les moyens. Voilà.
Même d'un point de vue légal, là c'est aussi un aspect très important, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait, peu importe la technologie ou peu importe ce qui est déployé à l'hôpital ou chez les patients, il faut qu'il y ait un responsable légal, il faut qu'il y ait des corps qui vérifient tout un certain nombre de choses, donc c'est entièrement une vérité. Il faut, tous ces sujets-là, il y a toute une partie qui peut être faite à l'intérieur des laboratoires, une réflexion qui est faite sur ça, à l'origine même du logiciel dont on parle, qui est le logiciel Diva, a pas du tout été conçu pour ça. Donc c'est une histoire très amusante comment ce projet a fini. J'en profite d'ailleurs pour mentionner que les premiers concepteurs de la plateforme, c'était des étudiants thésard et postdoc qui étaient Mohamed Elberi et Charlotte Godard, et c'était un projet en collaboration avec l'Institut Curie et Maxime Dahan, dont je vais même mentionner le nom car hélas il est mort peu de temps après. Et c'était pour faire de la microscopie. Donc là, c'était de la recherche fondamentale qui a digéré ça. On n'a pensé pas aux applications et c'est bien après que l'application est venue et tout. Mais il y a une importance de se dire, pour tous ces sujets à application médicale, effectivement, le lien entre les laboratoires académiques et ce qui va en sortir est infiniment important.
Mais est-ce que aujourd'hui, quelles sont finalement les applications de ces jumeaux numériques des applications cliniques qu'on peut constater aujourd'hui, Jean-Baptiste Meusson?
C'était une bonne question. C'est pas comme si c'était extrêmement répandu. Ça reste comme... Il y a des choses, des grandes entreprises très spécialisées dans le médical, le Siemens, General Electric, ont des modélisations, mais c'est souvent par exemple encore des modélisations qui sont très proches de la partie instrumentale. Modélisation d'IRM, de fonction en fonction des patients, de manière d'imager, qui ont leurs jumeaux numériques et leur façon d'être utilisés. La chirurgie est probablement le domaine dans lequel c'est pas du tout répandu, mais il y a différentes entreprises qui se sont positionnées, des grosses comme des plus petites, qui commencent à avoir des applications avec une vraie utilisation des choses aussi bêtes que avoir par exemple aux États-Unis la FDA, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu un accord pour utiliser la technologie dans un cadre clinique avec tout ce que ça implique. Et c'est pas rien du tout, parce qu'il y a un vrai confort à avoir le laboratoire et à penser à des choses. On touche à des vrais êtres humains, avec des vraies contraintes et des vraies choses comme ça, c'est vraiment plus la même chose. De faire toutes ces choses-là. Donc la chirurgie, c'est bien. Il y a le Living Heart, qui pour l'instant cherche tous ces projets-là de type modélisation complète du cœur, qui cherche encore peut-être des applications plus grande échelle, mais qui commencent à être appliquées aussi, avec tous ces systèmes-là. Et sur le coup... Le reste des modélisations, je peux dire que c'est peut-être plus des modélisations de l'hôpital et de son fonctionnement, de la gestion des ressources. On revient aux jumeaux numériques, mais industriels, appliqués à l'hôpital en tant que structure qui doit faire des choses. Pour la partie médicaments, je connais vraiment moins bien. Je ne sais pas si vous connaissez.
Donc on fait vraiment des efforts sur les plans national, européen et international pour se positionner comme, on peut dire, une addition importante pour réduire le coût de développement de médicaments et de la découverte de nouveaux cibles thérapeutiques. Donc il y a aussi EDIT, c'est une initiative européenne pour le Human Virtual Twin. Et là, on a des discussions pour la définition, pour l'implémentation, pour les risques éthiques, mais aussi l'accessibilité aux données et l'équité d'accès. Parce que, comme Jean-Baptiste a dit, pour déployer de jumeaux numériques à large échelle et sur les hôpitaux, par exemple, on a besoin d'avoir des investissements assez lourds d'infrastructures et aussi de politiques. Ce n'est pas une question pour un seul labo et ce n'est pas une question pour même pour un seul pays. Donc pour ça, c'est très important de soutenir des initiatives sur le plan national et européen pour être aligné avec toutes les choses qui sont décidées sur le Parlement européen.
Ben, quels sont les risques éthiques, justement? Comment le numérique peut-il personnaliser le parcours de soins? Et s'oriente-t-on vers une médecine entièrement numérisée? Restez à l'écoute, on y arrive.
Nous sommes au milieu du bois. Décor. Homme, un peu moi, je suis un peu toi. Nous sommes hommes au milieu du bois. Décor, homme, un peu moi, je suis un peu toi. Nos branches tendues vers le ciel, je suis à côté de toi. Toi, mon arbre paré. Nos branches tendues vers le ciel, je suis à côté de toi. Toi, mon autre pareil, je me retourne.
Tu es là,
tout près de moi.
Si la terre tourne,
elle le fait pour toi et moi. Tes racines mêlées aux miennes, je suis à côté de toi.
soleil. Tes racines mêlées aux miennes, je suis à côté de toi, toi mon autre pareil.
Et le vent nous a bercés, chacun de notre côté. J'ai toujours su pourtant, mais sans le savoir vraiment, que j'étais née contre toi.
My twin.
De Daisy Fields en direct sur France Culture, car nous parlons d'une nouvelle technologie en train de déclore, les jumeaux numériques. On en parle avec nos deux invités du jour, Jean-Baptiste Masson, directeur du laboratoire Décision et Processus Bayésien Épiméthée et chercheur à l'Institut Pasteur, à l'INRIA et au CNRS, et Anna Niarakis, professeure à l'Université Toulouse et chef d'équipe au Centre de Biologie Intégrative et au Laboratoire Moléculaire et Cellulaire du Développement. On vient de parler des applications pour l'instant limitées de ces outils-là, ces simulations ultra sophistiquées d'un système biologique. Côté prise en charge clinique, pour le moment, c'est encore limité, mais côté recherche fondamentale, on peut évoquer ensemble vos travaux, Anna Niarakis. Vous avez justement travaillé sur un jumeau numérique pour la polyarthrite rhumatoïde. Ça consistait en fait à faire des articulations arthritiques en 3D, c'est ça ?
Alors, oui et non, en même temps. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces sujets assez passionnants, au moins pour nous dans les labos, parce que ça nous a permis aussi de rapprocher le patient, mais aussi les cliniciens. Et poser des questions que très souvent on ne pose pas sur la recherche fondamentale ou même appliquée. Donc la question c'était comment on peut modéliser les données existantes pour faire de modèles prédictifs. Pas du tout de jumeaux numériques à l'époque, de modèles un peu plus simples. Une cellule virtuelle, comment modéliser le fibroblast dans la polyarthrite rhumatoïde. Et après, petit à petit, notre intérêt a commencé à être sur d'autres molécules, mais d'autres cellules impliquées sur la polyarthrite rhumatoïde. De plus, c'est assez important de dire que maintenant, en France, c'est presque interdit de faire de biopsie tissulaire sur les patients si c'est que pour la recherche. Donc, le prélèvement sont plutôt de prélèvements de sang. Et pour la polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas de biomarqueur très bien établi pour prédire soit la maladie, soit la progression ou la réponse au traitement. Donc on a plusieurs défis pour essayer de trouver une réponse, et les approches de biologie systémique font que ça. On essaye de voir la maladie comme un système où on essaye petit à petit à mettre en place et modéliser par une façon modulaire. Donc depuis des années, nous avons créé des modèles pour différentes cellules spécifiques sur les patients polyarthritique. Et après une collaboration avec Sanofi et Aventis, nous avons créé, j'ose pas dire un jumeau virtuel, mais une approximation d'une articulation arthritique avec un modèle multicellulaire à multi-échelle qui était calibré avec des données de patients. En ces moments, nous avons appuyé sur ça pour passer sur une modélisation 3D. Et on a des prototypes de l'articulation arthritique pour le moment de deux dimensions. Et on est en train d'ajouter la troisième. Donc l'aspect spatio-temporel, c'est aussi très important parce que l'articulation, c'est un système assez complexe à étudier et à mettre en place.
En fait, ce qu'on comprend à ce niveau-là de l'émission, Jean-Baptiste Masson, c'est par contre, ce sont des outils qui sont assez puissants pour faire de la recherche fondamentale.
Oui, alors ça sur le coup, de manière assez amusante, probablement que dans le laboratoire, au-delà de ce qu'on a disons, discuté là, l'initiative qui ressemble le plus, même si on ne le fait pas dans le même cadre pour la recherche, pour nous, c'est la larve de drosophile. Alors c'est complètement autre chose, c'est l'autre axe du laboratoire, et où, comme c'est un animal qui est très particulier, et que la drosophile accompagne la science depuis très longtemps, et est très bien connue, on a la possibilité d'avoir le corps, le système nerveux, les muscles, et tout un ensemble de choses comme ça. Donc effectivement, on fait des efforts actuellement pour simuler tant le corps que son système nerveux, pour essayer de mieux comprendre la complexité de la prise de décision chez la larve, les choses à tenter. Et on en revient toujours à ce qu'on disait auparavant, sur un système infiniment plus simple. Bon, c'est déjà extrêmement difficile. Donc sur ces choses-là, on est en train d'essayer de voir ce qu'on peut faire sur des cas où effectivement on pourrait faire à la fois de la physique, à la fois des neurosciences, dans un seul et même système.
Vous évoquez la larve de drosophile. Ça me fait penser, est-ce qu'on peut imaginer s'affranchir, en tout cas limiter l'usage des animaux que l'on teste pour faire de la recherche, Anna Niarakis?
Je suis obligée de dire oui, parce que j'ai aussi les soutiens du Centre français pour la réduction de l'utilisation des animaux pour la recherche. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de faire de jumeaux numériques ou de modèles in silico pour remplacer une partie des animaux et des expériences in vitro ou in vivo sur les modèles animaux. Ça aussi, c'est vraiment une application très importante de ces types de technologies.
Sans donner l'illusion qu'on pourrait...
Oui, oui.
Ça paraît bête, la réglementation. À un moment ou à un autre, on ne touche pas un être humain sans qu'un certain nombre de systèmes aient été testés. Et notre faculté, notre impossibilité de compréhension qui fait qu'on passerait d'un système à un autre simplement, ou qu'on pourrait prédire sur toute une échelle de différents niveaux de complexité de différents animaux, fait qu'on fait ces tests-là. Personne ne fait ces tests-là pour le plaisir.
Mais juste un commentaire important. Par exemple, en France, sur la cosmétologie, on n'utilise plus.
Tout à fait. Non, bien sûr. Je pense aux médicaments.
En effet, en cosmétologie, mais par contre, par rapport aux médicaments, c'est envisageable de donner un médicament humain sans l'avoir testé sur des animaux, voilà, et il faut aussi prouver que ces technologies sont aussi efficaces que les tests in vivo.
Exactement.
Et pour le moment, on est quand même face à des technologies limitées. On peut peut-être revenir ensemble, Anna Niarakis, sur les limites des jumeaux numériques.
Alors, je pense que c'est une fonction aussi de disponibilité des données et de qualité des données. Parce que pour avoir un jumeau numérique crédible, fiable, il nous faut beaucoup de données en ces moments. On les a pas. On dit big data, mais en réalité, on peut avoir des data sur plusieurs aspects, mais pas en profondeur. Et je pense qu'on n'est pas encore là pour avoir un jumeau numérique sur le corps entier ou même sur un système pour remplacer vraiment les essais sur les animaux. En ces moments, on fait des approximations, on fait des tests, on fait aussi des comparaisons. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver jusqu'à là. Et c'est pour ça que le projet interdisciplinaire et multidisciplinaire entre la clinique, le corps de patient, l'accessibilité aux données et le laboratoire in silico, c'est très important. Et c'est aussi soutenu par l'État en ce moment.
Le problème de l'accessibilité aux données et surtout de leur harmonisation, en effet, ça c'est un premier point. Jean-Baptiste Masson, quelles sont les limites techniques que vous identifiez ?
Déjà, un point important, c'est que les progrès du calcul et les progrès de l'intelligence artificielle, et donc cette émergence du jumeau numérique, a fait renaître un fantasme qui serait, si on pouvait tout mesurer, on pourrait tout prédire. Ça date de Poincaré, on sait déjà que c'est pas vrai, le mathématicien. Donc, c'est-à-dire, même si on a l'impression, il n'existe pas une façon de tout mesurer qui serait si précise qu'on pourrait prédire l'évolution d'un système, admettons qu'on ait une puissance informatique infinie. Donc ça, c'est la première chose.
Est-ce qu'il y a aussi des effets additifs ou synergiques
Dans le cas de Poincaré, c'est même une magnifique démonstration qu'il avait faite sur un système extrêmement simple dont il a démontré qu'on ne pouvait pas prédire. Donc ça, c'est la première chose pour se dire...
On ne peut pas prédire la trajectoire d'une balle, même dans des systèmes déterministes. Impossible. Voilà.
Et donc ça, ce qui nous ramène tous au plus grand génie, qui est entre autres parmi les plus grands génies, qui est Poincaré. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça revient à dire, on doit définir des problèmes dans lesquels on peut mesurer suffisamment de choses pour apporter, par exemple dans le médical ou à l'hôpital, plus que ce que la connaissance et l'expérience d'un médecin peut fournir. Et là, sur le coup, il y a des problèmes où on peut s'imaginer. La médecine, c'est compliqué parce qu'il y a ce que dans le langage de statisticien, on dirait, il y a trop de variables cachées. C'est-à-dire, il y a trop de choses qui sont en fait pas mesurables. On n'a pas le droit de prendre. On dirait que le patient serait entièrement d'accord pour mesurer de tonnes de choses. Il y aurait trop de choses à mesurer. Donc même même pour les simulations de, par exemple, de chirurgie, on ne sait pas comment telle et telle tumeur a modifié les tissus du patient. On ne peut pas aller ne plus mesurer à tous les endroits, tout pour faire un jumeau. Donc, il y a une vraie question de limitation. Ça revient à dire, dans un premier temps, pour avoir un impact, c'est quels sont l'ensemble des problèmes qui ne sont pas dimensionnellement, c'est-à-dire dont les variables ne sont pas tellement complexes ou dont les variables sont tellement peu accessibles où on peut réussir à avancer dessus. Après, oui, en cumulant de la connaissance sur des systèmes, comme exactement comme vous disiez, quoi, avec des systèmes en parallèle et de manière modulaire, on va commencer à avancer et pour des problèmes, petit à petit, on va trouver des utilités, des choses comme ça. C'est juste, ça va juste être long, relativement complexe. Mais c'est un bon but. Les méthodologies qui sont employées sont quand même bien déterminées maintenant. Donc, sur le coup, c'est bien lancé. C'est juste que, voilà, il y a la difficulté. Et quand on touche au médical, on touche à quelque chose de compliqué, de réglementé.
Et justement, Anna Niarakis, l'explicabilité, c'est essentiel dans ce domaine. Il faut pouvoir comprendre les mécanismes biologiques qui sont mis en cause. Mais encore faut-il comprendre comment l'IA a modélisé aussi ces interactions. On fait face aussi, en ce moment, à des boîtes noires. C'est, l'expression est un peu galvaudée, mais c'est une réalité.
Il n'y a pas que l'IA sur le jumeau numérique. On peut aussi avoir de jumeaux numériques traditionnellement faits avec des approches mathématiques formelles qui étaient développées depuis des années. Maintenant, on a vraiment aussi avancé sur ces domaines-là pour avoir de jumeaux numériques mécanistes. À mon avis, le jumeau numérique hybride, un peu IA, un peu mécanisme, c'est vraiment la meilleure façon de voir ces problèmes, parce que si on veut vraiment implémenter le jumeau numérique sur la clinique, il faut être capable d'expliquer les résultats et la prédiction. Je pense qu'IA va venir assez vite aussi, hein, d'avoir une explicabilité acceptable pour ces niveaux de responsabilité, mais on n'est pas encore là.
Je me demande pour l'explicabilité. Ça dépendra de la nature des modèles, des choses. Alors peut-être que la contrainte réglementaire forcera des modèles dont la taille sera limitée justement afin d'en obtenir une certaine tractabilité. Soit dit en passant, parfois, la réglementation qui est vécue comme une contrainte peut être le côté américain. Indéniablement, la FDA, donc, qui contrôle l'arrivée sur le marché des médicaments et des logiciels pour le médical, est extrêmement réactive à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Elle modifie ses règles, elle est raisonnable, elle demande, voilà, vous devez montrer d'où sont venues vos données, vous allez montrer la performance de votre modèle, mais on sait qu'on ne peut pas avoir des preuves infinies sur la généralisation, c'est-à-dire, à la fin, on a entraîné sur un jeu de données, on l'a appliqué sur un autre, est-ce qu'on est bien sûr que ça va s'appliquer partout? Il n'y a pas non plus de moyen de savoir. Donc, ils vont tester, demander des retours, demander la procédure à l'avance, mais comment vous allez updater, donc changer votre modèle avec vos nouvelles données. Donc en vrai, il y a aussi une façon de le penser de manière dynamique en se disant soyons raisonnables sur ce qu'on demande en termes de tractabilité, d'ouvrir la boîte noire pour dynamiquement autoriser des outils à faire ça et simplement les évaluer proprement et responsabiliser l'ensemble des entreprises qui les sortent.
Et tout ça conduit à une question majeure, celle des questions éthiques. Quels sont les enjeux éthiques de cette nouvelle technologie? Restez avec nous.
Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture avec Jean-Baptiste Masson et Anna Niarakis. On continue de parler des jumeaux numériques, ces avatars numériques qui sont développés en ce moment pour la recherche fondamentale, des simulations ultra sophistiquées d'un système biologique. On vient de parler des limites quand même, des techniques actuelles. Parlons maintenant des enjeux éthiques. Jean-Baptiste Masson, quels sont-ils ?
Ils vont être relativement similaires aux mêmes enjeux qui sont discutés pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, pour pouvoir faire tout ça, il faut accumuler énormément de données sur les patients et les patientes. On va les mettre où, ces données? Qui a le droit d'y accéder? À quel point les modèles qui vont permettre de prédire révèlent des informations sur ces patients et ces patientes? Le plus probable est qu'en plus, ces calculs ne puissent pas être si facilement que ça mis dans l'hôpital. Il y a les questions des serveurs déportés. Si on les met sur le cloud, ils appartiennent à qui, le cloud et ce genre de données? Donc en fait, on se retrouve avec les données extrêmement classiques, les problèmes extrêmement classiques déjà des données médicales et sur ce que leur stockage et leur accès. La deuxième, c'est à mesure que ça réussira, on prédira beaucoup de choses sur le patient. Ça va créer toute une problématique non triviale d'un point de vue d'un côté des assurances, qui vont être forcément extrêmement intéressées à voir ces modèles et à voir ce qu'ils ont pu donner. Des assurances aussi des médecins, qui vont dire à quel point vous avez prévu votre chirurgie, à quel point vous avez pu obtenir un certain nombre de résultats et de médicaments afin d'évaluer le risque, de manière positive pour l'optimiser, de manière peut-être moins positif pour réussir à profiler les patients. Ça dépend des modèles assurantiels. Les modèles populationnels, c'est très bien. On veut pouvoir prédire sur la population, c'est pouvoir ajuster le risque. Les modèles individualisés, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment tel type de modèle sur un patient donne un score, score qui lui-même, ces modèles font des erreurs, comme tous les modèles. Quel est le prix d'une erreur et d'une chose comme ça? Donc en fait, on a les problématiques classiques des données médicales, qui sont véritablement très importantes, et des problématiques de à qui appartiennent les résultats et où est-ce qu'ils sont propagés.
Anna Niarakis.
Aussi, est-ce que les patients ont le droit de contextualiser un modèle open access avec ses propres données? Parce que maintenant, on essaie vraiment de faciliter les choses, hein, de faciliter les choses pour les cliniciens, pour rendre la simulation plus facilement établie avec un laptop. Mais à la fin, est-ce qu'il faut vraiment faire la modélisation si accessible par tout le monde? Et après, je pense qu'il y a aussi cette question d'équité, parce que si l'individualisation, la personnalisation d'un modèle est assez coûteuse, qui va couvrir le coût et pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité ou la capacité de le faire, est-ce que ça va créer un déséquilibre dans la société? Est-ce qu'il faut démocratiser l'accès sur ces technologies? Et avec quelle manière?
On évoquait tout à l'heure, justement, jumeaux numériques et hôpital. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire un jumeau numérique de l'état de santé d'une population? Est-ce que c'est possible, Jean-Baptiste Mazon? Est-ce que c'est souhaitable?
C'est déjà beaucoup plus possible, parce que sur le coup, c'est beaucoup moins granulaire, il y a beaucoup moins de détails, et finalement peut-être moins d'échelle à faire. Donc là encore, ça va être la question de qu'est-ce qu'on espère en retirer version ce qu'on veut mettre dedans, mais la dynamique des prises de rendez-vous chez les médecins, la dynamique à l'hôpital, la propagation de cette anomalie, en vérité, lors de l'épidémie de Covid, les laboratoires ont fait des jumeaux numériques. Différents laboratoires, moi, je connais celui très bien qui est celui de l'Institut Pasteur, donc tous ceux qui ont fait ça à l'Institut Pasteur, ils récupéraient des données le mieux possible de tous les hôpitaux. Alors c'était moins automatisé que ce qu'on aurait voulu, parce que c'était compliqué, puis la crise était tellement importante, mais il y avait quand même cette idée, on récupérait, on faisait des modèles, on prédisait ce qui allait se passer, est-ce que les hôpitaux allaient craquer, en retour on voyait, les données changeaient, les modèles s'ajustaient, c'était vraiment un jumeau numérique, donc c'était sous une forme de crise, extrêmement réduit dimensionnellement pour faire ça, mais c'était déjà ça, donc oui, on peut tout à fait envisager, il y a même des projets qui sont structurés au niveau étatique, d'essayer de se faire une espèce de, le fantasme étant le jumeau numérique du pays, quasiment prendre tout en entrée et en sortie, évidemment,
la complexité. Mais là, on est plutôt sur les niveaux épidémiques.
Oui, tout à fait. Oui, non, c'est ça. C'est pas exactement. Oui. Parce que c'est pas trop. En fait, en vrai, c'est très méta, c'est très gros, c'est très. Et donc, sur le coup, on pourrait avoir ça. Et après, faire à différents niveaux de granularité avec les données. Mais parce qu'en vrai, un modèle comme ça, ça ressemble plus à un modèle industriel. Il y a des incertitudes, mais en vrai, il y a des choses auxquelles on peut pas accéder. Et il y a plein de projets post-Covid qui sont quand même déjà structurés de recherche en disant si on avait eu des outils sur le téléphone, les données, les eaux usées, les choses comme ça, donc tout le monde est en train d'essayer de voir. Qu'aurions-nous pu prédire avec l'expérience malencontreuse du Covid et prédire pour les prochaines pandémies?
Prédire, moi ça me fait penser évidemment qui aurait pu prédire le changement climatique, parce que là on parle de scénarios épidémiologiques, il y a aussi ces scénarios climatiques avec des tentatives de faire des jumeaux numériques du système Terre, Jean-Baptiste Masson.
Alors là, sur le coup, je dirais que c'est quand même nettement plus de la simulation. Alors évidemment, on entre de différents scénarios, mais sur le coup, c'est de la vraie simulation physique, difficile, multi-échelle, extrêmement compliquée. Mais effectivement, l'ensemble des simulations ne vont pas dans la direction extrêmement joyeuse.
Oui, bien, ce sera ce mot de conclusion, en tout cas, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure avec cet avatar numérique dont on n'a pas fini d'entendre parler. Tout de suite, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, et tout de suite, dans cette chronique avec science, d'où viennent nos doigts?
Viennent nos doigts. Les doigts sont apparus il y a environ 380 millions d'années dans une période qu'on appelle le Dévonien. Le climat est globalement chaud, les continents sont rassemblés en deux grandes entités et la diversité marine explose, notamment chez les vertébrés. Les premiers à développer de véritables membres sont les poissons sarcoptérygiens. Ce devait être au départ un avantage considérable pour circuler dans la vase, puis quelques millions d'années plus tard, ça a été très utile pour conquérir la surface terrestre. Mais comment est-on passer des nageoires aux pattes? Cette question occupe les scientifiques depuis plus d'un siècle et deux grandes hypothèses s'affrontent. Denis Duboul est professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Évolution du développement et des génomes.
quand vous regardez des fossiles, on ne les voit pas vraiment, ces doigts. Et puis, quand vous regardez des nageoires de poissons actuelles, qu'on appelle des téléostéens, donc la truite, le saumon, etc., on voit qu'ils n'ont pas de doigts dans leurs nageoires. Et donc, se sont développées deux théories qui sont assez antagonistes, en fait. Une disait que chez ces poissons, il y a quelque chose qui va devenir des doigts, donc des structures qui sont relativement homologues à nos doigts. Et puis, chez nous, ça s'est vraiment développé en doigts. Et puis, une autre façon de penser, qui, elle, disait non. En fait, les doigts, ce sont quelque chose qui vraiment se sont développés dans la lignée qui est sortie de l'eau et qui a colonisé le milieu terrestre. Donc, c'est quelque chose qui est apparu de novo, comme on dit en évolution. Ce n'est pas une transformation de quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose de neuf.
Les doigts sont-ils une transformation des nageoires ou s'agit-il de structures totalement différentes? Question simple finalement, mais extrêmement compliquée à explorer. Car ces espèces dans lesquelles cette transition entre nageoires et membres s'est opérée, on ne les a pas sous la main. En revanche, on peut chercher dans le génome des poissons actuels les traces de l'origine de nos doigts et c'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans Nature. Le poisson qui a été étudié ici est le poisson zèbre. Alors, ce n'est pas une espèce particulière vis-à-vis des nageoires, c'est simplement une espèce modèle en génétique. On connaît très bien son génome et donc on peut aller fouiller dedans. Ce que sont allés chercher ces scientifiques, ce sont des parties bien spécifiques qu'on appelle les régions non codantes. Elles ne codent pas de protéines et pendant longtemps on a cru qu'elles ne servaient à rien. D'où la dénomination d'ADN poubelle. Pourtant, elles représentent 98% du génome humain et jouent en réalité un rôle essentiel dans la régulation des gènes. Dans cette nouvelle étude, les auteurs et autrices ont d'abord identifié chez la souris les régions de régulation impliquées dans le développement des membres. Ils ont ensuite cherché ces régions conservées chez ce poisson zèbre pour venir la retirer. C'est la méthode traditionnelle en biologie du développement. On enlève un morceau d'ADN et on observe les conséquences. Résultat, supprimer cette région régulatrice ne fait rien aux nageoires. En revanche, cela perturbe la formation du cloaque.
Le cloaque, c'est simplement chez beaucoup d'animaux vertébrés, chez les oiseaux, chez les serpents, chez les poissons. C'est en fait un seul orifice qui collecte tous les orifices qui sortent de notre corps. Donc la fin du tube digestif, la fin du système urinaire et la fin du système génital, qui chez nous ont des ouvertures différentes. Bien, chez les poissons, c'est un cloaque, c'est-à-dire tout converge vers une seule ouverture, donc qui joue le rôle en fait d'excrétion de tous ces tubes. Alors on s'est dit, mais comment c'est possible que la même séquence d'ADN, grande séquence d'ADN de contrôle, elle fonctionne chez les poissons pour faire le cloaque et puis chez nous pour faire les doigts? Est-ce qu'on a un cloaque? Non, si vous regardez les adultes, on n'a pas de cloaque. Mais si vous regardez des embryons humains très précoces, on voit qu'il y a un cloaque qui ensuite va se développer avec des ouvertures différentes. Donc on s'est dit, en fait, à l'origine, dans l'animal ancestral, ces gènes étaient importants pour fabriquer le cloaque. Et au moment où il s'est agi de faire des doigts, la nature, qui a beaucoup de peine à recréer des choses, la nature recycle beaucoup, elle a été recyclée, ce morceau d'ADN, et quelques gènes qui sont à proximité, pour fabriquer des doigts.
Mais quel rapport entre un cloaque et des doigts? En fait, il y a une logique. Ce sont tous deux des structures situées aux extrémités. Le cloaque est le bout des tubes excréteurs et les doigts, celui des membres. L'information portée par ces gènes serait donc simplement fabriquée ici, la structure terminale. Finalement, les doigts apparaissent bien comme une structure nouvelle, mais issue d'un recyclage génétique. Cela montre aussi que l'ADN non codant joue un rôle central dans l'évolution. L'étude est également remarquable pour son exploit technique. Le morceau de génome supprimé est très grand, 500 000 paires de bases, et cela a été rendu possible grâce au ciseau moléculaire CRISPR-Cas9. La prochaine étape serait de vérifier ce phénomène chez des poissons plus anciens dans l'arbre évolutif, mais pour l'instant, la technologie ne permet pas de manipuler aussi finement leur génome. Il faudra donc attendre de nouveaux outils pour continuer à explorer l'histoire de nos doigts.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.